Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'IGEOBOX consacré aujourd'hui aux chansons enregistrées au cours de la Grande Guerre et dans les années qui la précèdent et la suivent immédiatement. C'est parti! La défaite contre la Prusse en 1870 et la perte de l'Alsace-Lorraine nourrissent un puissant courant nationaliste constamment entretenu au sein de l'armée et de l'école. La chanson n'est pas en reste, comme le prouve l'abondante production de titres chauvins et revanchards. En 1872, Paul Déroulède, fondateur de la Ligue des Patriotes, écrit Le Clairon, une exaltation de la bravoure du soldat français.
Sur la route est large, le clairon sonne la charge, les zouaves vont chantant. Et là-haut sur la colline, dans la forêt qui domine, on les guette, on les attend.
À la même époque, Amiatti enflamme les cafés-concerts avec des morceaux incitant à tourner les regards vers la ligne bleue des Vosges. Il faut récupérer les provinces perdues, comme le suggèrent Alsace et Lorraine.
Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu germaniser la plaine, mais notre cœur.
La reconquête sera militaire. Or, face à une Allemagne beaucoup plus peuplée, les courants natalistes incitent les femmes françaises à procréer. À contre-courant, le chansonnier Montéus les invite à refuser d'enfanter. La grève des mères, chanson de 1905, ici interprétée par les Amis de ta femme, est un puissant brûlot pacifiste qui vaudra à son auteur 2 mois de prison ferme pour visée abortive. Peine remplacée en appel par une lourde amende.
Femme debout, femme à l'ouvrage, il faut sauver l'humanité. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité. Déclare la grève des mères, au bourreau crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans.
En 1891, Éloi Ouvrard obtient l'autorisation du ministère de la Guerre de se produire sur scène en uniforme de soldat. Bien vite imité par des artistes populaires comme Paulin ou Bach, il lance ainsi le comique troupier. Le répertoire, plein de sous-entendus grivois, décrit le quotidien du militaire. Dans « Avec Bidas », Bach vante la chaude fraternité au sein du régiment.
Et depuis que je sers la France, Bidas est mon meilleur copain. Quand on n'a pas eu de punition, on a chacun une permission. Avec l'ami Bidas, on ne se quitte jamais, attendu qu'on est tous deux natifs d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais.
En août 1914, à la veille de l'entrée dans le premier conflit mondial, la musique est pratiquée collectivement au sein de fanfares, harmonies ou de sociétés orphéoniques. Les interprètes se produisent dans des goguettes, des cabarets et des cafés-concerts. La chanson est alors un média incontournable et un phénomène de société qui transmet des informations en phase ou en décalage avec l'opinion publique. Petit format, feuillets et partitions assurent la diffusion de chansons de plus en plus disponibles également sur disques 78 tours. L'entrée en guerre balaye les espoirs des pacifistes. Même Montéus se range sous la bannière des va-t-en-guerre. Sur l'air d'Auprès de ma Bolonde, il écrit le belliqueux « Chasse aux barbares » que nous venons d'entendre. Le chant occupe une place importante dans la vie du soldat. Il rompt la monotonie des longues marches, soude les hommes, égaie les moments de répit dans les lignes arrières, permet d'honorer les camarades tombés sous la mitraille. Les poilus s'approprient les chansons à la mode, adaptant sur leur mélodie des paroles de circonstances, grivoises ou sinistres. Diffusée en petit format ou recopiée à la main, elle circule tant bien que mal le long de la ligne de front. Faute d'instruments à disposition, hormis quelques harmonicas, les musiciens en fabriquent, avec les matériaux glanés de ci de là. La guerre déclarée, la chanson est enrôlée dans l'effort de guerre s'intégrant dans le dispositif de propagande. Les autorités surveillent de près la production chansonnière, afin d'empêcher l'émergence de toute voix dissidente, contestatrice ou simplement critique. Ainsi, les chansons font l'objet d'une censure préalable de la part des services de police. Il convient au contraire de mettre en avant les morceaux belliqueux et édifiants susceptibles de galvaniser les troupes. Dans cette veine patriotarde, Bérard interprète en 1916 « Verdun, on ne passe pas ».
Et Verdun, la victorieuse, un cri se porte là-bas, les époux débordent de la Meuse, halte là, on ne passe pas.
Certains s'épanouissent dans cette veine guerrière à l'instar de Théodore Botrel. Détournant la petite tonkinoise, « Ma petite Mimi est un chant d'amour, non à sa bien-aimée, mais à sa mitrailleuse. Et c'est très chaud. » Au bord de l'orgasme, il chante « Plein d'adresse, je l'agresse, je la stique et la polie, de sa culasse jolie à sa petite gueule chérie. » À 80 ans de distance, l'interprétation qu'en donne Pierre Desproges permet de souligner le ridicule des paroles.
« Ma mitrailleuse au bonheur devint pour moi l'âme sœur. » Quand elle chante à sa manière, ta 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 ta, ah que son refrain m'enchante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma glorieuse, ma petite Mimi, ma mitrailleuse. Rosalie me fait les 12 yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux.
Soucieux du moral des troupes, l'état-major autorise les orchestres de régiment à donner quelques concerts à partir de l'été 1915. Sans surprise, les morceaux légers ont plus de succès que les musiques militaires. À partir de 1916, les airs du Cafcons et du Music Hall se diffusent au front grâce au Théâtre des Armées, des spectacles itinérants où se produisent des artistes venus de l'arrière. À l'invitation de l'état-major, les vedettes se produisent pour les soldats. Bach y triomphe avec « Quand Madelon », une chanson joyeuse et légère qui n'avait pourtant guère séduit les civils avant-guerre. Il faut dire que la misère affective et sexuelle endurée par les soldats au front n'auront que plus désirable la Madelon, une serveuse d'auberge amicale et peu farouche.
La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon, comme son vaste œil fétiche, nous l'appelons la Madelon. Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour, ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour.
Sur un timbre, un air connu et apprécié, les poilus écrivent des paroles sur la rude réalité de la vie des tranchées. Pour échapper aux foudres de la censure et aux représailles, les auteurs se gardent bien de signer leur création. Parmi les morceaux les plus marquants, on peut citer « Dans les tranchées de Lagny », morceau écrit en 1915 par un ou des poilus anonymes sur l'air de « Sous les ponts de Paris ». Il est ici interprété par Francis Lemarque.
Lorsque descend la nuit, dans les boyaux, on se défile en cachette, car la mitraille nous fait baisser la tête. Si parfois un obus fait tomber un poilu, près du cimetière, on dérobe ses débris aux abords de la nuit.
Tout message antimilitariste est bien sûr prohibé et ne peut s'épanouir que sous couvert d'anonymat. C'est le cas de la chanson de Crane. Un morceau antimilitariste au message hautement subversif, plaqué sur la mélodie et la métrique de Bonsoir Mamour, un succès de Charles Sablon.
Bonsoir Mamour, bonsoir ma fleur, bonsoir toute mon âme. Ô toi qui tiens tout mon bonheur dans ton regard de femme, de ta bouche.
Le texte est le fruit d'une élaboration lente, modifiée au gré des événements. Apprise par cœur, transmise oralement, la chanson se diffuse clandestinement et circule pendant plusieurs mois d'un secteur à l'autre du front, sous différentes versions et appellations. La chanson de Lorette, la chanson des sacrifiés, la vie des tranchées. Il faut attendre 1917 pour que le texte se stabilise. La chanson est truffée de références au quotidien des soldats. Le premier couplet insiste sur le rôle crucial du poilu contraint de remonter en première ligne. Le refrain témoigne du désespoir de soldats convaincus d'être sacrifiés pour une cause qui les dépasse. C'est à Crane, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. Le deuxième couplet fustige les embusqués, ces gros qui font la foire, échappant au conflit et se pavanant sur les boulevards. Les paroles opposent les riches aux simples soldats. Ceux qu'on le pognon, ceux-là reviendront, tandis que les troufions s'entretuent.
Adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
La chanson se termine sur une vision subversive. Le poilu menace de cesser les combats, de se mettre en grève et d'inverser les rôles. Je cite « Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau, car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. » Exutoire de la lassitude et de la révolte des combattants, la chanson finit par être associée aux mutineries affectant une partie des régiments de l'armée française lors de l'offensive du Chemin des Dames au printemps 1917. Pourtant, des versions de la chanson circulaient avant l'épisode. Quoi qu'il en soit, la chanson de Crâne se répand dans les tranchées. On l'entend en catimini, loin des oreilles des officiers. Son contenu explosif limite sa diffusion à la zone du front. Enregistrée pour la première fois en 1952, elle trouve de nos jours un grand écho, car son contenu correspond à ce que nous évoque en premier lieu la Première Guerre mondiale. Un conflit au cours duquel la vie humaine du simple soldat ne semble avoir aucune valeur.
Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troupions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.
Non, non, plus de combat. Chanson écrite par un auteur anonyme au cours de l'année 1917 revêt une forte connotation antimilitariste. Les paroles assimilent la guerre à une grande boucherie. L'auteur insiste sur le contraste entre la vie d'avant, celle de l'usine, juste et heureuse, et celle des tranchées opposant les outils de l'ouvrier qui crée au fusil qui tue.
Les canons, fusils, baïonnettes ne sont pas des outils d'ouvriers. Ils en ont, mais ceux-là sont honnêtes et de plus ne sont pas meurtriers. L'acier d'un couteau de charrue vaut mieux que celui d'un lebel. L'un produit tandis que l'autre tue.
Avec l'entrée en guerre des États-Unis en 1917, déferle non seulement des troupes fraîches et bien équipées, mais aussi des musiques nouvelles, en particulier le ragtime, ce genre précurseur du jazz. L'orchestre dirigé par James Reese Europe, composé d'une soixantaine de musiciens de Harlem et Porto Rico, subjugue l'auditoire. Ils interprètent ici un Memphis Blues plein de swing. La victoire s'accompagne du retour en force de la chanson cocardière. Dès 1918, Bérard s'interroge. Qui a gagné la guerre? Pour lui, la réponse ne fait aucun doute.
Le sac ou d'eau, couvert de terre, oui, c'est lui qui signe au succès, c'est lui qui a gagné la guerre, le poilu, le soldat français.
Qui se sent morveux se mouche. Guéri de son prurite belliqueux, Montéus écrit en 1922 La Butte Rouge. L'auteur compare l'âpreté des combats avec la frivolité et la douceur de vivre dont jouissent ceux qui se la coulent douce à l'arrière. Puis il oppose le bonheur de la paix retrouvée au souvenir des poilus morts au combat. En renouant avec sa fibre socialisante, Montéus livre un vibrant plaidoyer contre la guerre, et nous y avons déjà consacré un épisode que je vous invite à écouter.
La Butte Rouge, c'est son nom, le baptême se fit un matin, où tous ceux qui grimpèrent roulèrent dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin, mais moi, j'y vois des croix portant le nom des copains.
L'épisode touche maintenant à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt.